bonsoir, bienvenue sur NDFN 88.4.
Une émission radioactive.
Et comme tous les lundis, 20h, nous sommes là. Et ce soir, on va faire d'abord un peu d'agenda marseillais et ensuite on parlera d'une exposition assez controversée à Paris. Et du coup, on diffusera un peu des réactions sur cette exposition au contenu raciste. Et puis ensuite, on rediffusera un montage où Elsa Dorlin présente un bouquin qu'elle a écrit qui s'appelle « La matrice de la race ».
J'ai 365 cicatrices, et sur ma peau, ma couleur a connu tous les hommes qui lui ont dit qu'elle était dévastatrice et qu'elle reste l'opposé du beau, complice du vice sous toutes ses formes. C'était écrit comme ces stupides règles et ces cons comme ces nègres, cupides qui ont vendu les leurs. Dans les pleurs et les cris, étouffés par les tresses piègles, comme si l'espèce bipède écoutait son cœur. J'ai pleuré, rarement ri, comme à cette connerie d'abolition. Et à leurs 150 ans, ils peuvent se le foutre dans le fion. Ils étaient fiers, enrôlés tirailleurs. Et en fin de guerre, t'as su comment leur dire d'aller se faire voir ailleurs. Et qui on appelle pour les excréments, des travailleurs déracinés, laissant femmes et enfants. Et ces traditions qu'ils sauvegardent, en y repensant, j'ai de la peine pour ces noirs teints blonds pour faire blanc. S'ils savaient que pour être libre, fallait courir, ne pas se faire couper les jambes par celui qui veut tout asservir. Y'a des chaînes qui nous maintiennent au bas de l'échelle. Et pour que ça change, faudra attendre que la banquise dégèle. Regarde l'Afrique et les Antilles, l'Inde et les autres îles. Regarde les traces de l'homme blanc qui traumatise nos esprits. Non pas à vie, mais pour des générations. J'ai mon avis sur les suites des colonisations. Critique sur la façon dont on m'oblige à penser. Mais qu'est-ce t'en sais? J'ai pas eu le choix de vivre comme un Français. Un Français FABA, une monnaie forte qu'on exporte en Outre-mer. Et dans les deux cas, c'est comme droguer nos terres. Ils ont enchaîné nos pères pour qu'ils les regardent violer nos mères. Et merde si aujourd'hui on en subit les séquelles. Mais qu'est-ce que quelques années, environ 400? Et si la fin colle au début, ça finira dans un bain de sang.
Parole de descendants de couleurs de cannes.
J'avais 20 ans quand je vis pour la première fois le bois de Vincennes. Je représentais le simulacre de moi-même et de mon peuple. J'étais étrangère, enfermée par la grande France coloniale, celle du maréchal Lyautey, de Paul Reynaud, de Joséphine Baker. C'était en 1931. Il nous exposait aux yeux des spectateurs curieux de visiter l'exposition coloniale.
Quelques minutes suffisent à l'heureux visiteur de l'exposition internationale pour accomplir une traversée qui demande d'ordinaire de longs jours à bord des plus grands paquebots. À peine a-t-il posé le pied sur l'île des Cygnes qu'il découvre l'artisanat syrien et libanais de nos États du Levant. Deux pas à peine le conduisent à nos protectorats du Maroc et de Tunisie, puis dans une ruelle de la Casbah d'Alger. Un saut de puce et le voici au cœur de l'AEF, dans un village pygmé de l'Ouban-Guichari. Plus loin, près du pont de Passy, c'est l'AOFT Tombouctou et ses mystères, Abonnés et le palais du roi Gléglé. Le visiteur découvre ainsi la diversité de la mission civilisatrice de la France dans ces colonies dont les indigènes peuvent ainsi entretenir et développer une activité laborieuse conforme à leur mentalité comme à leur tradition, tout en bénéficiant progressivement des avantages incomparables qu'apporte notre civilisation industrielle.
Nous étions adolescentes au sein nu, exhibées au regard concupiscent des visiteurs. Nous étions condamnés à simuler toutes sortes d'indigènes exotiques. Nous étions canaques, enfermés dans nos cages, nous devions jouer aux cannibales pour impressionner le public. Peu nombreux furent ceux qui s'opposèrent à cette glorification du colonialisme. Le Parti communiste organisa une contre-expo et les surréalistes dans un tract crièrent
« Ne visitez pas l'exposition coloniale ! Ne visitez pas l'exposition coloniale ! Ne visitez pas l'exposition coloniale !»
Plus de 8 millions de personnes ne suivirent pas cette consigne. Ils furent séduits par l'innovatrice machine publicitaire de l'époque. J'étais agressive. Les spectateurs et les photographes en étaient surpris. Ils s'attendaient sans doute à ce que je sois naturellement souriante. « J'ai 20 ans et je me promène au bois de Vincennes. J'y retrouve les vestiges de l'exposition. L'ancien musée des colonies, la pagode, le célèbre zoo animalier. Et la chanson d'hier résonne encore dans ma tête.
Quittant son pays, un petit négro de l'Afrique centrale vint jusqu'à Paris voir l'exposition coloniale. C'était Nénuphar, un joyeux lascar. Pour être élégant, c'est aux pieds qu'il mettait ses gants. Faut pas croire toujours tout ce que Nénuphar raconte. Ainsi l'autre jour, il m'a dit quand je fais mes comptes. À la grée, j'écris sur le dos de ma chérie. Et d'un coup de torchon, après j'efface les additions.
J'ai 20 ans, je me trouve à côté de l'exposition d'hier et de l'insouciance d'aujourd'hui. À nouveau en cage, mais caché du regard des badauds, interdit au regard de ceux qui voudraient savoir. En attente d'être expulsés, nous sommes enfermés parce que considérés comme étrangers indésirables. Nous sommes au centre de rétention, juste en face de l'hippodrome. Ici, au fil des jours, des mois, nos révoltes se poursuivent. Le 21 juin 2008, Salem Essouli est mort. Il était malade. Les policiers qui nous gardent lui ont refusé les soins dont il avait besoin. On a gueulé, on a manifesté notre colère. Ils nous ont tabassés et gazés. Le lendemain, nous nous sommes révoltés, une fois de plus.
Voilà, vous êtes toujours sur NDChaîne 88.4 sur les ondes de Radio Galère. Et donc le petit bout sonore que vous venez d'entendre est un extrait d'un film qui s'appelle Balade au bois, qui est un film qui a été réalisé suite à l'incendie du centre de rétention de Vincennes, il y a plusieurs années de ça maintenant. Et voilà, ça, on voulait surtout s'en servir parce que ça rappelait un peu ces expositions coloniales qui donc ont pas mal eu lieu dans plein d'états colonisateurs au début du XXe siècle et à la fin du XIXe, et qui visaient surtout, qui permettaient surtout à la propagande occidentale de justifier l'apport de la civilisation à l'Afrique avec la colonisation, quoi. Et donc du coup, c'était tout ça pour introduire les réactions qu'il y a eu du début du siècle jusqu'à aujourd'hui. Peu de choses ont changé. Le racisme a juste pris de nouvelles formes. Et donc on peut voir maintenant un spectacle qui s'appelle Exhibit B, qui est une espèce de performance picturale, je crois. C'est des espèces de tableaux.
Un zoo humain. En fait,
voilà, c'est un zoo humain qui met en scène des noirs enchaînés. C'est des tableaux vivants.
Voilà, c'est ça.
Voilà, qui met des acteurs noirs mobiles, muets, immobiles, muets et enchaînés.
Ouais, et du coup, peut-être on va lire un texte du collectif qui appelle à se mobiliser et qui se mobilise déjà depuis plusieurs jours. Ça fait presque 2 semaines, je crois, que ça dure. En tout cas, il y avait encore une manifestation hier. Donc c'est le collectif contre Exhibit B. Nous exigeons la déprogrammation d'Exhibit B. Cette installation prétend représenter l'oppression des Noirs, de la traite à nos jours. Antiraciste autoproclamé, Brett Bailey se contente de mettre en scène des corps noirs, réduits au silence, victimes. Dans Exhibit B, il n'y a ni l'histoire, ni l'oppresseur, blanc, ni la résistance, noir. En 1931, le zoo humain de l'exposition coloniale stigmatisait déjà le corps noir, au profit de la mission civilisatrice. En 2014, Brett Bailey rejoue l'exhibition coloniale sous couvert de dénoncer le racisme. Cette dénonciation ne montre rien des mécanismes qui fondent l'oppression négrophobe et se part des lettres de noblesse de l'art contemporain. Face à ce cynisme, à cette énième humiliation, des centaines de Noirs se sont levés. Ce qu'on nous reproche aujourd'hui, c'est bien de briser le dispositif orchestré par Brett Bailey et ses soutiens. Nous ne sommes pas muets, nous dénonçons, nous ne sommes pas que victimes, nous luttons. D'autres, des organisations prétendument antiracistes, alors on pourrait les citer, la LDH, SOS Racisme, le MRAP, la LICRA, voilà tout ça, les médias dominants, les institutions et personnalités publiques préfèrent applaudir ce déballage voyeuriste. Là est la fracture. Deux antiracismes s'affrontent. D'un côté, l'antiracisme consensuel, qui promet de résoudre la fracture coloniale avec des images choquantes, de grands symboles et de beaux principes. De l'autre, l'antiracisme en lutte aujourd'hui, le nôtre, ne se satisfait pas d'éduquer contre le racisme. Nous combattons. La violence raciste marque notre quotidien. Ce sont les discriminations systématisées, les violences policières, l'occultation de nos cultures et de nos histoires. Nous avons raison de nous révolter. Le dispositif proposé par Bailey était sourd à toute contradiction. Notre parole se fera donc entendre par la rue. À cette légitimité, les pouvoirs publics opposent une répression féroce. La semaine dernière, devant le théâtre Gérard Philippe à Saint-Denis, plusieurs centaines de protestataires ont eu à faire face à un dispositif policier disproportionné, à des gazages répétés et à des interpellations, qui donc ont conduit à deux placements sous contrôle judiciaire, au minimum. À cette répression s'ajoute une campagne calomnieuse qui vise à décrédibiliser nos revendications et nos porte-paroles. Cette opération idéologique tend à nous présenter comme des forces réactionnaires, des censeurs. Mais les censeurs viennent toujours au renfort de l'ordre moral et du consensus. Pour notre part, nous nous attaquons à cet ordre raciste. Notre lutte a une portée générale. Au-delà d'Exhibit B, nos mobilisations sont l'expression des luttes noires d'aujourd'hui, de Ferguson à Paris. Nous ne sommes plus en cage, nous sommes debout. Et donc voilà, vous pouvez retrouver le collectif contre Exhibit B sur Internet ou bien en allant à Paris, à Saint-Denis, manifester à leur côté. Sur Internet, l'adresse c'est www.contreexhibitb.blogspot.fr et également sur Facebook. Et du coup, je vous propose d'écouter tout de suite un montage avec des propos...
Des manifestants qui réagissent au fait qu'ils en ont marre d'être représentés comme les victimes d'une domination qu'ils auraient intériorisée, puisque là, il n'y a pas... Il y a juste les Noirs enchaînés et il n'y a pas de dominant. L'esclavagiste est absent. Donc en fait, c'est comme s'ils s'étaient enchaînés eux-mêmes.
On est contre Exhibit B parce qu'on n'est pas contre l'auteur de ce spectacle qui se dit de bonne foi et on veut bien le croire. Mais on est contre la machine institutionnelle qui formate les esprits dans le sens de l'oubli, dans le sens de cultiver un raciste qui ne dit pas son nom. Et on pense que Exhibit B, ou en tout cas la formule Exhibit B, reproduit le schéma colonial. Un schéma colonial qui nous a appris que l'esclavage était pour notre bien, qui nous a appris que l'esclavage nous conférait une âme, qui nous a appris que la colonisation était pour notre bien, que la colonisation nous civilisait. Et qui ne parle jamais de l'horreur, qui nous parle jamais de l'horreur de cet aspect-là. Exhibit B prétend que ce spectacle-là nous guérit du racisme, prétend que ce spectacle-là nous éduque du racisme. Mais le néocolon nous apprend toujours, ou le colon nous apprend toujours ce qui est bon pour nous. C'est ce que fait Exhibit B. Il nous dit ce spectacle est bon pour vous. Nous, on dit non, parce que ce spectacle insulte la mémoire de nos ancêtres. Et tout en l'insultant, il ne montre jamais les criminels qui ressemblent à l'auteur. Et c'est ça le problème. S'il veut vraiment dénoncer quelque chose qui montre la globalité du tableau et non pas partiellement, parce que ça c'est la démarche coloniale esclavagiste de l'État français qui dans ses livres d'histoire traite l'histoire des Noirs de manière partielle en montrant toujours leurs conditions de victime mais jamais leurs conditions de résistant. Et c'est ce que fait Exhibit B quand on regarde. Il prétend que les Noirs s'expriment à travers un regard, mais comment on peut interpréter justement un regard quand on a été conditionné à voir les Noirs comme des paillassons? La question est vraiment de traiter de la démarche coloniale, néocoloniale. Ce que je veux dire, c'est qu'il est insupportable d'entendre quelqu'un nous dire ce qui est bon pour nous, comme si on ne pouvait pas le penser. On peut vous dire que des Noirs produisent des œuvres qu'on peut trouver maladroites ou à droite, mais il est concerné. Et à ce moment-là, son erreur lui appartient. Ce qui nous dérange dans Exhibit B, c'est vraiment la démarche coloniale et néocoloniale, paternaliste, qui, je le répète encore, parce que c'est là la question, on ne peut pas faire rebondir sur est-ce qu'un Noir qui aurait fait la même chose. Vous savez, le dictionnaire de langue courante française, vous pouvez vérifier après cette interview, dit généralement que le mot nègre est un mot considéré comme raciste et péjoratif quand il est utilisé par des blancs, mais il est neutralisé quand il est utilisé par des noirs. Ce n'est pas moi qui le dis. Ce qui fait que la proportion, l'impact du message ne prend pas le même sens quand il est dévoilé par un noir ou par un blanc. Ce n'est pas une question d'incriminer la personne, c'est question de dire que derrière lui, il a la charge de toute une histoire. Et cette charge, elle est coloniale, esclavagiste. Nous, on a la charge de toute une histoire. Et cette charge, elle est anti-esclavagiste et anti-coloniale. Donc, on ne peut pas regarder le message de la même façon en fonction qu'il est interprété par l'un ou par l'autre. L'histoire confère un poids différent en fonction que ce soit l'un ou l'autre qui le fait. Donc voilà, je le redis, ce qu'on dénonce dans ce spectacle, ce n'est pas la supposée bonne foi du monsieur, parce qu'on suppose qu'il se croit de bonne foi. Et comme beaucoup de néocolons se croient de bonne foi, c'est le fait qu'il fait sans nous, pour nous, en disant que c'est bon pour nous. Mais on voit aucun visage de criminel blanc qu'on connaît parfaitement. Jamais ils sont dans ces tableaux. Et ça ressemble aux livres d'histoire qu'on voit où le blanc abolit l'esclavage, mais on n'insiste jamais sur le fait de la cruauté, la monstruosité qu'il a fait. Donc ça répète la même séquence.
De toute façon, qu'on soit contre ou pas, ce spectacle il aura lieu. Il a déjà été joué en Avignon il y a 2 ans.
Ouais.
C'est pas, tu vois, c'est pas nouveau ce truc-là. Mais il faut être là pour leur montrer qu'il n'y a pas que des nègres enchaînés sur des scènes, il y a aussi des gens qui parlent, tu vois. Mais
d'accord.
Bon, ceux qui parlent, ils sont à l'extérieur, mais c'est à peu près la place des nègres qui parlent, c'est toujours à l'extérieur. Mais voilà, je suis là parce qu'il faut être là, il faut être incarné. Il faut leur montrer qu'on a des gueules, qu'on a une voix et qu'on existe, c'est tout. Leurs conneries, ils les font tous les jours, de toutes les manières, tous les jours. C'est juste leur rappeler que nous on est là et qu'ils font des trucs de blanc en fait. Ça, c'est un vrai truc de blanc. C'est les blancs qui font les blancs, c'est pas tous les blancs qui agissent comme des blancs. Il y a des blancs qui se déterminent en tant que blancs, tu vois, et c'est une forme d'intelligence. D'ailleurs, ils sont là, ils sont de ce côté-là. Et puis il y a les blancs qui font les blancs, mais ils sont à l'intérieur, ils sont dans la salle. Voilà, ils sont en train de regarder des noirs enchaînés. Je sais pas.
Démarche qui se veut antiraciste, on ne peut pas avoir l'homme noir en cage, on ne peut pas avoir la femme noire en cage, dénudée. Ça, c'est testo ce qu'on a eu pendant des siècles dans les foires d'exposition. On l'a eu à la foire de Paris, qu'on a eu la super belle Tour Eiffel, dont la plupart des gens oublient que dans l'histoire de la Tour Eiffel, il y avait aussi ça. C'était l'exposition universelle. Et à l'exposition universelle, il y avait des noirs en cage. On a tendance à faire une séparation des deux. Mise en scène du noir, surtout du corps de la femme noire, sans jamais lui laisser la parole. Ok, l'homme blanc, tous ces blancs-là, ils auront leurs 15 minutes pour se sentir mal, pour dire « c'est horrible !» Et après, qu'est-ce qui se passe? On rentre tous chez nous. On oubliait qu'on a été aller voir ça. Et les noirs que vous croisez tous les jours dans la rue, qu'est-ce que vous en faites? Votre femme de ménage que vous payez au SMIC, parce que bien sûr, il ne faut pas la payer au-dessus du SMIC pour qu'elle puisse vivre correctement. C'est ça aussi le racisme. Le racisme, ce n'est pas juste cracher sur le noir ou le traiter de seul nègre. Le racisme, c'est institutionnel. C'est toute une institution. C'est quand vous sortez, c'est quand vous allez au Monoprix. Il y a le vigile, comme par hasard, qui a été embauché sur quel critère? Sur le critère que c'est un homme noir, grand, costaud, donc sauvage, qui peut venir et aller marcher derrière tout le monde, les attraper. Les autres, les gens, ils vont fliquer qui ? D'autres noirs. Mais comme c'est un noir qui flique l'autre noir, on ne peut pas parler de, on peut pas parler de racisme. On peut pas parler de, on peut pas leur faire un procès pour discrimination. Pourquoi ? Ce qui me trouble le plus dans cet exhibit, ce n'est pas juste de mettre les noirs en cage, c'est la passivité du blanc. La passivité du blanc. C'est comme si les noirs se sont un jour levés et se retrouvés en cage. Comme pas magie, pas de vin. Les voilà, ils sont en cage. Mais avant d'être en cage, il y a eu quoi ? Il y a eu des soi-disant recherches scientifiques pour prouver que l'homme noir, il était très proche du singe. On ne s'est pas trouvé en cage comme ça. Il y a eu une pensée philosophique là derrière, l'eugénisme.
Si tu veux parler d'esclavage, aujourd'hui on est en 2014, tu peux pas parler d'esclavage en montrant que l'esclave. Il faut montrer aussi l'esclavagiste. Si dans la pièce c'était un blanc et il y avait un noir, des noirs enchaînés et des blancs, je ne serais pas là. Il faut que le blanc il se détermine en tant que blanc. Il était là. L'esclavage, ça s'est pas fait tout seul. On s'est pas enchaîné tout seul. Ils ont du mal à se projeter. Ils ont du mal à se déterminer en tant que blanc. Moi, tu sais, c'est comme son expo là. Il y a un noir en cage. Si tu mets un blanc à côté avec un fouet, je dis ok. C'est équilibré. Mais c'est jamais le cas. C'est que les blancs ont du mal à se déterminer, à se projeter dans l'esclavage.
Le système esclavagiste colonial et néocolonial français a toujours procédé de la même manière. Il suffit pas de m'écouter, il suffit de lire l'histoire. Quand les nègres marrons cherchaient à prendre leur liberté, ce qui était totalement légitime et juste, on les diabolisait et on racontait que c'était des diables. On disait donc comme que ce sont des extrémistes, des vilains pas beaux qui sont contre la démocratie, sont contre la civilisation, ce sont des sauvages, des mangeurs de blancs, etc. Et les gens y croyaient et adhéraient à cela et avaient peur d'eux. Même des noirs eux-mêmes avaient peur des nègres marrons parce qu'on les présentait comme des diables. La colonisation, c'est pareil. On présentait ceux qui résistaient à la colonisation comme des communistes qui étaient l'équivalent du diable. Lumumba était traité de communiste, l'équivalent du diable. Les Américains ont fait la chasse aux sorcières, aux communistes. Donc, vous voyez, c'est encore la même diabolisation. Et donc, le néocolon et le colon et l'esclavagiste, lorsqu'ils se sont attaqués, a le réflexe de renverser le problème. D'où l'invention aussi du racisme anti-blanc, qui vise à retourner le problème de manière à ce qu'on ne puisse jamais traiter le problème de fond, celui du mal qu'il a fait toute preuve apparente.
J'ai la marque de la chaîne.
Partout où je traîne,
j'ai la marque de la chaîne.
Celle du champ de coton,
j'ai la marque de la chaîne.
J'ai tatoué sur le front,
déclaré inapte à l'intégration.
Voici tous des gens sans blouse, sans âme et sans espoir, qui apparemment ne sont pas suffisamment dans l'histoire. On met en scène sur les chaînes et ce presque tous les soirs. Que le ministère à court terme se propose de déchoir. Asservi, on a servi, on lutte pour notre survie. Contre l'accès nos poupées et ses nervis. Confusqués par les demandes de réparation qu'on formule, ils pensaient régler le massacre par 40 acres et une mule. Mauvais calcul, en campagne, en madras et en panne. Ils veulent qu'on récolte la canne et récolter la manne. Est-ce de la rancune? C'est un peu ça. Je veux récupérer nos thunes et tout éclat dans la peça. Si nos vols sorbets, enfants issus du sol, du carbet. On veut plus faire de quoi embête connaître la crasse des coups de fouet. L'abolition a fini par porter ses fruits, mais il reste étrange tout comme ceux dont parlent les pilis.
J'aime les pompes et la sape, le rock et le rap, et puis claquer des ronds. Le piment, le tinin, l'arachide, le bissap, j'suis déclaré inapte à l'intégration.
J'ai la marque de la chaîne,
partout je traîne.
J'ai la marque de la chaîne,
j'ai celle du champ de coton.
J'ai la marque de la chaîne,
j'ai tatoué sur le front.
Déclaré inapte à l'intégration.
J'aime les pompes et la sape, le rock et le rap, et claquer des ronds, le piment, le tinin, l'arachide et le bissap.
Oui, vous êtes toujours sur NDChaîne 88.4. Et c'est donc une présentation d'un livre qui s'appelle La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française. Et c'est un bouquin qui a été écrit par Elsa Dorlin et elle en parle dans une émission qui s'appelle Body Freaks, les corps déjantés. Elle en parlait en 2005. Voilà, et c'est donc un montage qui est tiré de cette émission. Ça parle de la domination à travers la pathologisation des corps non blancs, des corps de femmes et des corps des intersexes au XVIIe siècle. C'est une analyse croisée entre les catégories de sexe et de race et comment elles se sont construites. Et dans cet essai, Elsa Dorlin, elle travaille le concept de genre, mais sans le limiter aux relations hommes-femmes. Elle montre comment la définition de catégorie sexuelle a participé à construire la différence entre des groupes humains et les a hiérarchisés, selon leur apparence physique. Donc mettant en place des rapports de domination fondés sur ces identités de genre. Non seulement entre les hommes et les femmes, mais aussi entre hommes, entre femmes et hommes. Elle parle de l'élaboration du discours sur la construction de genre, 17e et 18e siècle, mais elle montre aussi en quoi et comment ce discours il a évolué avec l'émergence d'une idéologie nationale. Voilà, donc elle commence par parler du corps des femmes.
Idéologie nationale, c'est-à-dire après la Révolution française, en gros.
Et ensuite, en lien avec les politiques colonialistes. Et du coup, elle commence par parler du corps des femmes et de la sexualité féminine, et elle démontre comment cette sexualité a fait l'objet d'un contrôle de plus en plus étroit, exercé par le pouvoir scientifique. Elle s'intéresse à la grossesse aussi, comme étape essentielle dans le processus de reproduction sociale. Et elle ajoute que la gestion des naissances et la maîtrise de l'instruction, c'est des éléments essentiels de la domination masculine. Voilà, et puis bon, elle ajoute autre chose qui est moins connue sur l'âge classique et le fait que le fondement de la différence sexuelle reposait sur un concept qui était le concept de tempérament, donc qui légitimait la représentation de la différence entre les hommes et les femmes sur des catégories qui étaient la catégorie du sain et du malsain. Voilà, donc avec bien évidemment les hommes du côté du sain et puis les femmes du côté du malsain.
Hystérique.
Voilà, hystérique et tutti quanti. Et elle fait donc le lien avec une étude de la colonisation, où elle dit que le regard des hommes occidentaux sur les femmes noires aurait eu un rôle non négligeable dans la généalogie de la nation française. Et qu'il y a eu donc une conquête de territoire par les armes, mais qu'il fallait ajouter à ça une conquête de corps, quoi, en fait, hein, et que les colonisateurs étaient donc dans la quête d'une identité par la découverte d'autres corps. Voilà, elle questionne donc quelle relation existe entre l'histoire de la sexualité et celle de la politique, comment le genre construit le politique et en quoi le politique construit le genre. Et sexisme et racisme sont-ils liés? Et elle démontre aussi en quoi le développement de l'économie de plantation esclavagiste au XVIIIe siècle a contribué à former et à introduire un concept de race au sein de l'idéologie nationale et comment l'imaginaire de la différence sexuelle a structuré cette pensée raciste. Donc une fois encore, c'était ce concept de tempérament sain ou malsain qui a été utilisé pour créer une hiérarchie entre les groupes humains d'origine géographique variée. Donc les colons ont considéré le corps des Noirs comme pathogène par essence, donc comme ils avaient considéré le corps des femmes. Et ça faisait donc des Noirs des êtres naturellement inférieurs aux Européens blancs. Ça n'a d'ailleurs pas été vrai que pour les Noirs, puisqu'il y a aussi les Indiens qui ont été féminisés. Voilà, Indiens et Américains étaient d'une certaine manière féminisés, et Américains, Africains. Et ça expliquait donc, a posteriori, la colonisation. Ça justifiait que les Européens virils s'approprient sexuellement leurs femmes en toute impunité. Ça a d'ailleurs été un peu renversé par la suite. Du coup, ça a été d'abord, ils ont été d'abord féminisés, puis ensuite virilisés à outrance.
Notamment aux États-Unis, avec toutes les campagnes contre les pseudo-violeurs noirs de femmes blanches et les racistes du Ku Klux Klan notamment, qui s'armaient, soi-disant, pour défendre la femme blanche.
Ouais. Voilà. Donc du coup, là, pour le coup, les hommes noirs vus comme plutôt des menaces que comme des corps malades. Et quoi qu'il en soit, en tout cas, du coup, c'est quand même toujours des procédés racistes. Et il y a eu donc quelque chose qui est devenu un problème de premier ordre pour les colons, c'était le métissage. Et bon, pour eux, la mise en ordre du genre était quand même préservée, puisque les femmes blanches, qui étaient mères par définition, commandaient naturellement les hommes noirs, selon eux. Voilà. Et il y a eu aussi un mythe qui s'est diffusé, qui était par rapport aux femmes noires, le fait que les esclaves n'enfantaient pas dans la douleur et que les mulâtresses, quant à elles, étaient stériles comme les prostituées. Du coup, c'était bien pratique. Ça faisait que elles risquaient pas de se reproduire. Et bah, du coup, la sexualité a été, aussi bien dans le discours que dans les pratiques, au cœur de la politique coloniale. Et la société coloniale a été bien sûr un des hauts lieux de formation de cette idéologie nationale au cours de la période révolutionnaire.
Et du coup, juste pour dire deux petits mots, toujours sur le montage qu'on va entendre, donc la personne qui parle le plus, c'est donc Elsa Dorlin, qui est une universitaire blanche, qui travaille notamment sur le concept d'intersectionnalité, qui est un concept qui a été créé par les féministes noires, et en particulier noires américaines, et qui est donc le fait de travailler sur l'intersection entre l'oppression de classe, de race et de genre. Et voilà, et donc c'est dans le cadre de l'émission Bodyfrix qu'elle intervient, émission qui est animée entre autres par Vincent Guillot, qui est le porte-parole de l'Organisation internationale des intersexes.
Eh ben, on écoute la matrice de la race, Elsa Dorlin.
La différence sexuelle à l'âge classique, c'est-à-dire à partir du XVIIe siècle, a notamment été à travers ce que j'ai appelé donc la pathologisation des corps. L'idée selon laquelle les corps des femmes étaient considérés par la plupart des philosophes, des savants, des médecins, etc., comme des corps inférieurs, différents, parce que des corps malades, c'est-à-dire davantage sujets aux maladies que les hommes, et sujets à des maladies spécifiques, spécifiquement féminines, qui ne touchaient pas les hommes.
Alors, ça existe encore, hein, très récemment, on a encore des traités sur les maladies féminines, mais est-ce que ça n'existait pas avant le XVIIe siècle ?
Alors, bien sûr, ça existe avant le XVIIe siècle. On retrouve essentiellement ça dans la médecine antique, chez Hippocrate, chez Galien, et dans la philosophie antique, donc chez Aristote. Mais dans l'Antiquité, on a encore une conceptualisation de la différence sexuelle qui est à la fois déjà sur la pathologisation des corps. Hein, on trouve vraiment chez Galien, par exemple, l'idée selon laquelle le corps des femmes est un corps froid, humide, avec un tempérament considéré comme flegmatique. Mais vous avez par exemple chez Aristote une autre conception qui est un petit peu différente, qui est aussi sur l'imperfection du corps féminin, mais qui est un petit peu différente. Mais c'est vraiment situé au XVIIe siècle que cette conceptualisation de la différence sexuelle va prendre tout son sens et va devenir paradigmatique, non seulement pour penser évidemment l'inégalité des sexes, qui est très très forte à ce moment-là, mais également pour penser et pour conceptualiser ce qui va devenir l'inégalité raciale.
Alors ça correspond en gros, enfin ou a priori, à l'émergence aussi de cette idée de médecine.
Oui, l'idée de médecine. Alors peut-être ce qui est important de rappeler, c'est que on est clairement dans une pensée de la domination. Hein. Donc là, on est vraiment dans un cadre dans lequel la médecine a été le grand discours, hein, le grand mode de théorisation d'un rapport de pouvoir, qu'est le rapport de pouvoir, qu'est la domination masculine. Donc la médecine a été au cœur de cette idéologie. Elle l'est toujours. Hein,
C'est-à-dire une médecine des hommes, pour les hommes, et la femme est laissée de côté jusqu'à ce moment-là.
Plus exactement, une médecine qui jusqu'ici était un savoir qui n'était pas encore un savoir parfaitement institutionnalisé. Et à partir du XVIIe siècle, donc ce qui veut dire aussi que, par exemple, les personnes qui étaient assignées aux soins du corps pouvaient être des hommes savants, mais également des femmes, voilà, et des barbiers, c'est-à-dire des chirurgiens barbiers, c'est-à-dire des petits médecins, hein, bon, qui n'avaient pas de formation, qui n'avaient pas reçu de formation à l'université. Et au cours du XVIIe siècle, va s'institutionnaliser ce savoir médical. Et à partir de là, on assiste à plusieurs choses. Non seulement l'exclusion de tous ces petits corps de métier liés aux soins et donc qui vont être donc qualifiés de charlatans. L'exclusion à proprement parler des femmes qui ne sont plus considérées comme ayant un savoir médical sur le corps. Et aussi un discours médical qui, parce qu'il devient un discours officiel, considéré comme scientifique, va devenir un discours d'autorité très fort pour montrer que les rapports d'inégalité naturels ou prétendument naturels entre les individus sont des rapports qui peuvent être pensés par les catégories du sain et du malsain. Alors, qu'est-ce que ça signifie ? Ça signifie tout simplement que seront considérés comme inférieurs ou imparfaits des corps qui sont réputés malsains, malades, pathogènes. Et on va retrouver du coup avec les femmes, mais aussi avec les esclaves, par exemple, ou également avec les juifs.
Alors, pourquoi les femmes sont exclues, puisqu'elles ont un rôle important dans la médecine des femmes envers les femmes? Pourquoi, à ce moment-là, justement, sont-elles exclues de la médecine?
Alors, pourquoi elles sont? Pour plusieurs raisons. C'est vrai qu'il y a une longue histoire de la médecine féminine par les femmes et pour les femmes. Et c'est pour ça que tout à l'heure, quand on parlait de cette idéologie médicale pour penser la différence sexuelle, je suis toujours un peu mal à l'aise pour mettre Hippocrate, donc médecin du 5e siècle avant Jésus-Christ, dans ce lot. Parce qu'Hippocrate a en même temps un énorme respect à l'encontre des femmes médecins, des sages-femmes, dont il accorde une immense confiance et qui sont pour lui une partie prenante du processus thérapeutique. À partir de... Alors, la place des femmes dans la médecine, elle est tout à fait notable également, parce qu'on sait qu'au Moyen-Âge, et notamment au XIIIe siècle, il y a tout un art médical qui se développe, qui est représenté par un genre médical qui s'appelle le livre des secrets, et le livre des secrets des femmes. Et notamment, l'un des premiers, ça a été écrit par une médecin qui s'appelle Trotula, qui est vraiment une figure très importante de l'histoire de la médecine. Et dans ces livres, on a vraiment un savoir médical produit par les femmes, pour les femmes, sur le corps des femmes, et qui est donc à la fois un savoir médical qui vise à soigner le corps, mais également qui vise à l'embellir, qui est là pour le soigner, mais aussi pour s'en soucier, hein, avec un souci particulier. À partir du XVIIe siècle, il est vrai que du fait de cette institutionnalisation de la médecine, les hommes vont clairement prendre le pouvoir. Ils vont exclure la plupart des femmes, des sages-femmes, des matrones en les accusant de sorcellerie. Hein, et ça, là, ça correspond à la grande chasse aux sorcières qu'a connue l'Europe de l'âge classique. Donc les femmes sont exclues au nom de leur incurie. Hein, c'est-à-dire que tout d'un coup, on va considérer que ce qu'elles savent, c'est rien du tout. Hein, ce sont des recettes de bonnes femmes, ça ne sert à rien. Elles sont la plupart d'ailleurs accusées de sorcellerie et brûlées. Et puis les hommes vont arriver dans ce champ médical qui est la gynécologie. Et là, on va assister à l'émergence d'un nouveau genre médical qui s'appelle et qui va donner lieu à des centaines de traités, qui s'appellent les traités des maladies des femmes. Et tout d'un coup, effectivement, les hommes de l'art, les médecins, accédant à ce corps féminin, vont être comme stupéfaits par sa douleur et par sa vie organique, et vont considérer que le corps féminin est un corps qui saigne, qui coule, un corps souffrant, un corps hurlant. Et on va avoir des descriptions dans les traités des maladies des femmes sur l'hystérie essentielle du corps féminin, sur sa nymphomanie, sur son engorgement, etc.
Chante sorcière, celle qui fit fondre un cœur de fer, celle qui transforma son tortionnaire. Le grand inquisiteur qui lui ouvrit son cœur. On pouvait la trouver dans la forêt. Des incroyables fêtes, et toute nue, elle chante comme ça. Commence, ça commence, toute la forêt se met à parler, mais en transe. C'était un homme passionné, l'inquisiteur, qui voulait sauver l'humanité. Pauvre pécheur de l'éternelle damnation. Alors attention, ils sont venus la prendre la nuit. Ils l'ont traînée par la chevelure la chambre de torture. Un son premier cri éveilla son oreille, et la sorcière se mit à agir, et elle fit, elle s'en sorcelle, et se mit à chanter la supplicier.
On voyait qu'elle aimait être amoureuse, et sa longue chevelure faisait comme une couverture à peine à voir. Maintenant sale, ah, tu m'assassines, sauve ton âme, ah, tu commets un crime, pauvre femme, parle-moi,
D'ailleurs, tu fais tout pour me plaire. On peut dire que tu sais y faire. Non, c'est l'air qui vibre et tu fais son heure. Oh, comme t'es libre et comme t'es bonne. Le grand inquisiteur sent battre son cœur. Le grand inquisiteur sent fondre son cœur.
Ce qui est intéressant quand même, c'est que à la fois les femmes médecins sont traitées de sorcières et on trouve en même temps énormément d'intersexes qui sont brûlés parce que bon, pour sodomie, disons-le clairement, et à ce titre-là, donc c'est une appropriation du corps qui ne correspond pas à ce que la société attend d'elle à ce moment-là, qui fait que ce soit l'utilisation du corps de l'autre ou sa propre utilisation qui fait que l'on est purement et simplement brûlé en sorcellerie ou pour sodomie.
Exactement. Alors c'est vrai que pourquoi ça participe de ce putsch masculin dans l'univers de la médecine ou du corps en tout cas, et c'est qui correspond donc est en gros les années 1750, hein, qui est vraiment l'année caractéristique de cette arrivée massive des hommes et l'exclusion des femmes de la médecine. Alors en fait ça correspond à une modification dans la gestion sociale de la reproduction. C'est-à-dire que se met en place une politique nataliste,
voilà.
Hein, qui est très importante parce que en fait, ce sont les premières techniques de production d'une nouvelle nation française. Alors on discutera tout à l'heure pour voir quels sont les enjeux. C'est extrêmement lié à la colonisation. Hein. On a besoin d'une nation forte parce que il y a une politique impériale qui se développe à ce moment-là et qui donc nécessite que il y ait des enfants et des enfants forts. Et par conséquent, il faut que les femmes soient mis au pas et mis au pas par rapport à la reproduction. Et donc, il faut contrôler leur corps et leur sexualité. Par conséquent, on met des hommes qui sont là pour surveiller cette sexualité. Et désormais, toute femme qui aura accès au corps des femmes sera, d'une certaine façon, au service d'un pouvoir politique qui est là pour maximiser la capacité reproductive des femmes.
Voilà, on fait des femmes des reproductrices.
Exactement.
Et les hommes les gestionnaires de ces reproductrices.
Voilà, alors évidemment dans ce contexte, les femmes qui étaient jusqu'ici les sages-femmes, les matrones, etc. vont être exclues et accusées de sorcellerie, précisément parce qu'elles ont un rôle qui est traditionnellement celui d'assistante dans le cadre de la grossesse et de l'accouchement.
Hein, Mais surtout,
évidemment, dans le cadre de la transmission des secrets des femmes. Et les secrets des femmes, c'est pas seulement le soin et l'embellissement du corps, c'est aussi précisément l'ensemble des techniques anticonceptionnelles, c'est-à-dire l'ensemble des techniques liées à l'avortement, à l'infanticide et à l'empêchement de la fécondation, c'est-à-dire l'ensemble des PCR, préservatifs, capotes qui existent pour se préserver, hein, de toute grossesse. Et c'est ça qu'on veut que à ce moment-là, le pouvoir médical, le pouvoir ecclésiastique et le pouvoir politique veut faire cesser. C'est ces secrets-là qu'on veut interdire et qu'on veut. Et donc on va brûler beaucoup de matrones. Et c'est vrai que parallèlement, au début du XVIIe siècle et tout au long du XVIIe siècle jusqu'au XVIIIe siècle, on va assister à un certain nombre de procès pour sodomie d'hermaphrodites, hein, ce qu'on appelait alors les hermaphrodites. Alors il faut savoir juste que le terme de sodomie est en fait un terme qui ne désigne pas forcément oui. les pratiques de sodomie, mais qui plus généralement désigne toutes les pratiques dites contre nature, c'est-à-dire
non reproductives.
Voilà, tout simplement, les pratiques non reproductives. Et c'est vrai qu'on va assister à un certain nombre de procès d'hermaphrodites qui vont être brûlés comme les sorcières. Et là, ce qui est particulièrement problématique pour les autorités, encore une fois, médicales, ecclésiastiques, politiques, c'est l'idée selon laquelle on a ici des individus qui ont une sexualité non reproductive et potentiellement homosexuelle. Et donc, c'est cette idée-là. Alors, pourquoi ? Parce que c'est ça qui est intéressant dans l'histoire de cette conception de l'hermaphrodisme, c'est que jusqu'ici, disons, on désignait les hermaphrodites comme étant des changements de sexe au cours de la vie. Et à partir du XVIIe siècle, on va contester la véracité de ces changements de sexe en considérant que tous les hermaphrodites sont en fait des imposteurs et plus fondamentalement des femmes qui, à l'occasion d'une hypertrophie clitoridienne, c'est-à-dire à l'occasion d'une anomalie anatomique, profitent de cette anomalie pour se servir de façon tendancieuse de leur clitoris, en gros de s'en servir comme un pénis, et de satisfaire d'autres femmes. Donc ce qui fait peur ici, c'est pas tant l'ambiguïté sexuelle que la possibilité que des femmes puissent se satisfaire entre elles, se satisfaire sexuellement évidemment. Tous ces procès qui vont avoir lieu vont se finir sur des jugements qui vont souvent donner lieu à des conseils de la part des médecins, ça ne veut pas dire qu'ils seront effectués, mais de la part des médecins, sur, puisque les hermaphrodites sont en fait des tribades, c'est-à-dire des lesbiennes, mais qu'on appelait alors des tribades, puisqu'elles sont en fait des tribades et qu'elles ont donc une excroissance clitoridienne, pour que cesse cette perversité, il faut donc supprimer l'occasion anatomique de cette perversité. Et c'est vrai qu'on va avoir là les premières pratiques de clitorectomie sur les corps des personnes intersexes.
Alors, je rappelle que c'est toujours le cas, hein, en Occident, où un enfant qui naît avec soi-disant un clitoris hypertrophié ou une bite trop petite, on le rectifie. C'est ça qui est hallucinant, c'est qu'on est au 18e siècle, 16e, 17e, 18e siècle, et qu'aujourd'hui, au 21e siècle, nos médecins, à l'heure actuelle, continuent dans ces techniques-là.
Voilà, tout à fait. Alors, mais cela étant, là, on va vraiment avoir un espèce de dispositif total, hein, parce que c'est non seulement les hermaphrodites qui vont évidemment être les victimes du pouvoir médical, mais plus généralement, l'ensemble des femmes et des femmes... Alors, premièrement, des femmes européennes, puisque la plupart des femmes, et notamment celles qui sont diagnostiquées pour nymphomanie, vont souvent être victimes de la clitorectomie. Hein. Donc la nymphomanie, c'est une pathologie très intéressante parce que, en fait, dans cette idée selon laquelle les femmes sont inférieures parce que ce sont des corps malades, on a l'idée selon laquelle les femmes sont par nature des hystériques. Alors les hystériques, c'est par définition hein, les maladies de l'utérus, c'est-à-dire qu'une femme est femme précisément parce qu'elle a un utérus, et l'utérus est par définition un organe malade. Et un organe malade, souvent parce que il n'est pas sexuellement satisfait, et alors là, c'est sexuellement satisfait dans le cadre de la reproduction. Donc toutes les femmes sont plus ou moins hystériques, mais on va trouver une petite minorité de femmes qui vont être, elles, considérées comme nymphomanes. Et la nymphomanie est une pathologie qui est plutôt une pathologie, non pas du froid et de l'humide, c'est-à-dire du paroxysme de la féminité physiologique, mais au contraire une pathologie du chaud, de l'ardent, du brûlant.
Masculine.
Et donc c'est une pathologie au fond qui, ce que moi j'ai appelé, qui donne lieu à des mutations de genre de la part des médecins qui vont viriliser à outrance ces femmes en leur prêtant un tempérament, un naturel, un viril, parce que ces femmes, au fond, ces dites nymphomanes, sont prioritairement, celles qui vont être accusées de nymphomanie, sont prioritairement les prostituées, les femmes du peuple, et majoritairement les Africaines et partant les femmes esclaves.
Alors ce qui m'étonne quand même, c'est que les termes que tu emploies, on les emploie aujourd'hui encore couramment, ils ont été repris dans la psychanalyse et c'est toujours les mêmes définitions et aux mêmes personnes qu'on les attribue.
Ah oui, non mais c'est... Voilà, ce sera encore une très longue discussion. Moi j'ai pas fait l'histoire, enfin je suis pas allée justement jusqu'à la seconde moitié du 19e siècle par rapport à la psychanalyse, mais il y aurait des choses évidemment extrêmement intéressantes. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment ici la façon dont ces maladies ont d'abord été des maladies qui ont permis de penser une relation de pouvoir, de conceptualiser la différence sexuelle et vraiment fondamentalement de pathologiser des corps pour montrer leur différence. Et le cas le plus important est certainement le cas des femmes noires au XVIIIe siècle, puisque alors qu'on considère que les femmes européennes et notamment les prostituées, les femmes du peuple, les tribades, sont des femmes qui sont pathologiquement trop chaudes, hein, et avec toute l'ambiguïté de ce terme, c'est-à-dire qui ont une sexualité beaucoup trop active, beaucoup trop mais virile.
C'est ce qu'on dit aujourd'hui vulgairement, une chaudasse.
Mais
hein.
Exactement. Ces femmes, considérées comme des chaudes, hein, des chaudasses, vont être victimes de la médecine qui va intervenir directement sur leur corps pour les renormaliser, c'est-à-dire pour les reféminiser. Au prix hein, d'opérations.
Les refroidir,
c'est exactement ça. Hein. D'ailleurs, on les balance dans des bains froids,
tout à fait, oui.
Exactement comme on faisait pour les sorcières. Donc, on a vraiment un système qui est très, très intéressant. Et parallèlement, on va avoir, sur le cas des Africaines, qui sont en fait hein, les esclaves, hein, c'est-à-dire celles que les médecins observent dans les colonies des Amériques et qui arrivent par millions et qui vont être... sous domination plantocratique, on va considérer que ces femmes sont non plus pathologiquement chaudes, mais essentiellement chaudes. C'est-à-dire que ce qui va caractériser les Africains et le corps noir, c'est précisément le fait d'une inversion de genre, d'une inversion sexuelle caractéristique d'un peuple.
L'homme est froid et la femme est chaude.
Exactement. Et c'est précisément cette inversion qui va permettre de constituer une race à part, inférieure, c'est-à-dire de stigmatiser, hein, de marquer ce peuple par le sceau d'une caractéristique naturelle et endogène, la race, et qui en fait, en son fond, est fondée sur le genre et l'inversion de l'ordre sexuel.
Ou dépourvu de génie, grand vainqueur à l'âme de gagneur, ou fainéant et menteur, tout ça dans un même corps réuni. Race qui réussit, espèce peut avancer, sans histoire écrite ni récit, donc sans passé. Inventeur cravaté, créateur gâté, créature ratée, sans grandeur à cravacher. Civilisateur, sensibilisé, par train de vie aisé, hectare à dévaliser. Martyr, dans la moiteur désalisé, moteur d'immense fortune réalisée. Amateur de belles lettres et de poésie, frappeur de tambour avec fracas et frénésie. Grand penseur encensé, petite frappe assassin, baroudeur résistant, quémandeur assisté. Humble sujet du Tout-Puissant, se référant au Livre Saint. Individu indécent qui dissimule à peine, et leur sexe et leur sein, et leur sang est souillé, leurs chants sont brillants, dépouillés d'humanité, leurs yeux sont fuyants. Apprenons-leur à prier Jésus-Christ sans crier, et trier la canne à sucre tout en souriant. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. Que disent la science et la messe, toutes les grandes puissances du monde et la presse, que cette noirceur en présence dans la pièce nous est inférieure comme la chienne et la naisse. Bon chrétien, j'acquiesce volontiers, j'angoisse les eaux glacées placées devant ce corps sans grâce, et ses cuisses sont trop grosses, ses narines embrassent chacune des extrémités de sa pauvre face. Ses fesses sont une énorme masse, conséquence, sa silhouette n'a aucune forme de classe. Sa peau, une carapace de cuir sans souplesse, lèvres si épaisses qu'elles en deviennent grimaces. La pommette est saillante, chers clients, clientes, ne vous arrêtez pas à cette laideur criante. Les jungles de l'Afrique, lointaines et luxuriantes, nous offrent des spécimens de différentes variantes. Leurs femelles sont fertiles et vaillantes, dociles et idiotes, font elles-mêmes leurs paillotes. Les mâles ont côtoyé éléphants et coyotes, nourris de chasse, de pêche et de cueillette. Éloignez quand même vos fillettes. Parfois le sauvage plonge dans la démence, en rage, peut réduire un humain en miettes, mais le passage du fouet le ramène au silence. Oui, la nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée. La nature a fauté, s'est plantée en beauté. Toi, ton identité, c'est d'être la créature ratée, la créature ratée, la créature ratée, la créature ratée, être la créature ratée.
en gros, chez nous, c'est une maladie, c'est pathologique. Et là-bas, c'est normal parce que ce sont que des Noirs.
Exactement. Et alors, évidemment, on va considérer que là-bas, la clitorectomie, hein, chez ces peuples africains, la clitorectomie n'est pas exercée par les médecins, mais que c'est une coutume. C'est une coutume pratiquée sur toutes les jeunes filles parce que toutes les jeunes filles sont par nature des jeunes filles qui ont qui sont des mutantes, hein, de vraies mutantes, c'est-à-dire qui ont des clitoris démesurés et qui donc sont susceptibles de s'en servir de façon active sur d'autres femmes.
Voilà. Alors il y a aussi cette idée que le planteur peut se servir comme il veut du corps de ses esclaves et que de toute façon comme elles sont chaudes, ce sont pas des femmes, donc il les mettra pas enceintes et si elles sont enceintes, c'est pas de sa faute.
Voilà, mais ça va très loin. On sait très bien que on sait très bien qu'il y a eu une pratique de viol systématique de la part des planteurs, c'est-à-dire des colons à l'encontre de leurs esclaves. Femmes et hommes, d'ailleurs, ce que l'on sait moins. Et dans cette représentation médicale du corps noir et du corps racisé, on sait également que le fait de considérer ces femmes comme ayant un tempérament particulièrement chaud et ardent permettait de conclure qu'elles étaient non seulement sexuellement actives et entreprenantes, c'est-à-dire que c'est elles qui venaient chercher le rapport sexuel. Et la deuxième conséquence, c'est que c'était des femmes qui, par nature, étaient davantage stériles que les blanches parce que leur naturel chaud, brûlant, consumait le sperme et empêchait la conception.
Mais ça, c'était théorisé.
Bien sûr, bien sûr. Alors, c'est théorisé dans l'ensemble du corpus des traités des maladies des femmes au XVIIe et au XVIIIe siècle. C'est théorisé dans l'ensemble des traités des maladies des esclaves à la même période. Et on retrouve ça exactement le même raisonnement avec les prostituées. Hein. On considère historiquement que les prostituées sont des femmes qui sont bien plus stériles que les autres femmes, précisément parce qu'elles auraient un tempérament qui, par nature, est un tempérament ardent, chaud, etc. Et que, du coup, elles sont moins fécondes. Mais on retrouve ça au XIXe siècle chez Parent du Châtelet. Hein, donc c'est quelque chose qui est...
Oui, et de toute façon, on le voit encore à l'heure actuelle, au moins en France. Hein, c'est la prostituée ne peut pas être mère et on lui retire ses enfants, parce que par essence, c'est pas une femme.
Mais là, on avait une conception physiologique de la stérilité qui, évidemment, en son fond, est une conception politique de la stérilité. C'est-à-dire que, de fait, toutes ces femmes, les prostituées, les tribades, les femmes du peuple et les esclaves ne sont pas considérées comme de vraies femmes, c'est-à-dire qu'elles sont exclues des bénéfices sociaux et symboliques de la féminité.
Alors, dans le même temps, à peu près à la même époque, mais plus au XIXe siècle, dans l'Angleterre victorienne, on pratique très couramment sur les femmes la clitorectomie. Et en France ?
En France, très très largement. On cite souvent l'Angleterre victorienne parce que les travaux sur cette pratique ont été souvent faits. Ce sont des travaux anglophones, mais c'est ce que j'explique dans le livre. La pratique de la clitorectomie au XIXe siècle est extrêmement courante en France. Et on sait très bien qu'énormément de femmes hystériques, nymphomanes, etc. ont subi cette opération. Et jusqu'à la toute fin du XIXe siècle et la première moitié du XXe siècle, on retrouve encore des cas de clitorectomie relativement courantes.
Aujourd'hui, en fait, on continue systématiquement, en Europe en général, aux États-Unis aussi, en général aussi, bon, plus en Suisse, mais on continue à mutiler systématiquement dès la naissance des enfants qui n'ont pas, soi-disant, des organes qui soient conformes, et en utilisant ces techniques qui ont été mises en place à l'aune du colonialisme.
Oui, voilà. Ce qui est intéressant, c'est ce double dispositif à la fois d'intervention chirurgicale sur le corps, alors notamment effectivement pour tout ce qui concerne la clitorectomie, notamment comme opération paradigmatique, qui est pensée à partir du XVIIe siècle, donc à la fois sur les femmes, sur les intersexes et également sur les corps des femmes africaines notamment, qui est pensée Alors, de deux façons différentes. D'une part, sur, en Europe, qui est pensée comme dans le cas d'une pathologisation du corps, c'est-à-dire c'est une anomalie que les médecins doivent rectifier. Il faut rectifier la nature qui a un peu vrillé, hein, qui s'est un peu plantée. Et c'est exactement le même discours.
Le même terme.
Voilà, dans les protocoles actuels sur l'intersexualité, c'est exactement le même discours. C'est-à-dire on doit rectifier une erreur de la nature. Et nous sommes là dans une intervention qui est la plus neutre, soi-disant possible, présenté comme neutre, qui est attention, la nature a loupé une marche, on va juste venir rectifier ça. Et puis, par rapport à ces questions dans les pays ou dans les zones altérisées, hein, c'est-à-dire principalement sur les populations altérisées et racialisées, donc notamment dans le cas de l'esclavage. Pour les populations africaines, et puis aujourd'hui, plus généralement, évidemment, surtout les populations du Sud et qui sont outrancièrement racialisées, on va avoir
exotiques en général.
Exotiques, évidemment. Et on sait très bien que lors des grandes expositions coloniales au 19e siècle ou au 20e siècle, on va présenter ces corps de femmes noires avec ces clitoris et ces lèvres hypertrophiées.
Oui, ou la Vénus hottentote.
Évidemment, c'est le cas de la Vénus hottentote. C'est le cas de la Vénus hottentote. Et là, on ne dit pas que c'est une erreur de la nature. On dit que c'est une caractéristique anthropologique. Et par conséquent, on va identifier les pratiques d'excision, notamment, comme des pratiques culturelles et non pas comme des pratiques médicales. Ce qui est tout à fait fallacieux, puisque dans les deux cas, ce sont évidemment des pratiques culturelles et en aucune façon des pratiques médicales dans un cas et des pratiques culturelles dans l'autre.
Et en plus, on faisait venir les médecins, notamment d'Égypte, pour pratiquer la clitorectomie sur la femme blanche. Donc on considérait là que le praticien était un médecin et que c'était médical. Par contre, dans son pays, c'était coutumier.
Alors là, j'ai pas de traces des médecins, mais surtout on va considérer que les pratiques, ceux et celles qui pratiquent ces opérations en Afrique notamment, ne sont pas des médecins. Et c'est pas étonnant de savoir que c'est souvent des femmes, les exciseuses sont des femmes, donc elles ne sont pas considérées comme des médecins. Et elles sont considérées... Donc là, on retrouve encore... Enfin, les choses sont extrêmement imbriquées, mais ce qui est intéressant, c'est que l'intersexualité va devenir vraiment le cœur de la définition, la conceptualisation de la différence sexuelle et du rapport de genre, et va être en même temps au centre de la question de la racialisation des corps. Donc en cela, c'est extrêmement actuel.
Oui, parce que quand on parle à des médecins occidentaux, ils nous disent systématiquement l'intersexualité, c'est exotique. C'est le Maghreb, c'est les Grandes Antilles, c'est... voilà. Et quand on va dans des colloques sur le genre, très souvent, on a l'anthropologue qui a étudié les Inuits ou les Fa'afines ou les Rérés qui acceptent qu'on vive dans un autre genre. Et là, c'est montré comme quelque chose de très positif.
Exactement. Alors il faut évidemment être particulièrement attentif et attentive à ce type de discours, parce que on a là l'idée d'une culturalisation des définitions de genre extrêmement problématique politiquement. Parce qu'il s'agit au fond de reprendre un vieil adage du racisme biologique selon lequel dans les peuples qui témoignent d'une civilisation prétendument moindre, inférieure d'une non-civilisation, hein, dans ces peuples dits arriérés du 19e siècle ou du 20e siècle, eh bien ces peuples, on atteste de leur arriération par l'idée selon laquelle les identités de genre sont extrêmement floues, voire absentes. C'est-à-dire qu'il y a une indifférenciation sexuelle.
Un peuple moderne est un peuple binaire.
Et un peuple civilisé et moderne est évidemment un peuple où la différenciation sexuelle est arrivée à son acmé. Par conséquent, aujourd'hui, quand on a, mais vous voyez, les cas de transsexualisme ou d'intersexualité, c'est évidemment bien plus courant aux Caraïbes, au Maghreb, etc. On a là, en fait, la résurgence d'un discours raciste qui ne veut pas admettre que les brouillages des identités sexuées et sexuelles est évidemment présent partout. Et donc, on va dire, c'est ailleurs, c'est eux. Mais voilà. Nous, au contraire, c'est extrêmement clair. Et quand ça ne l'est pas, alors on intervient de façon d'autant plus violente.
Voilà, et en plus, ça permet de bien regarder, bien exposer le corps, si c'est un corps exotique. Et ça, on le voit vraiment dans tous les ouvrages médicaux, dans les thèses sur l'hermaphrodisme ou dans le discours avec les médecins, où ils vous disent, où ils écrivent. Vraiment, si on voit deux cas, notamment, je te parle souvent de cette thèse-là, une thèse de 1952 de médecine de Lyon, où les cas d'hermaphrodite français sont vus assez rapidement, et les cas d'hermaphrodite nord-africain, donc c'est de pauvres paysans, immigrés, etc., et sont vraiment, vraiment très très détaillés, jusque dans le moindre détail de leur organe génitaux
mais là encore,
et de leur vécu.
C'est exactement le même processus. Dans un cas, c'est de la pathologie, donc c'est exceptionnel. Et dans l'autre, c'est anthropologique, et donc c'est même une caractéristique raciale ou culturelle. Si on ne comprend pas ce dispositif, on ne comprend pas que la question de l'intersexualité et de sa répression, la question du sexisme et du racisme sont étroitement liées.
Mali.
me semble qu'on ne peut pas comprendre aujourd'hui le féminisme sans avoir une pensée profondément articulée à cette idée de intrication des rapports de pouvoir donc au sens domination masculine, racisme, pathologisation des sexualités et la question de la pathologisation et de la répression des corps et des individus intersexes, c'est-à-dire de l'intervention sur les corps. Donc, comme j'ai essayé de le montrer, c'est tout le cheminement de la matrice de la race, ça a été vraiment de partir comment on a conceptualisé la différence sexuelle pour l'ancrer dans les corps et comment à partir de là la différence sexuelle a servi de modèle pour penser la différence raciale et par conséquent le sexisme et a une histoire liée avec le racisme et aujourd'hui c'est tout à fait patent et comment du coup l'intersexualité a toujours été pensée comme le cas limite qu'il fallait contre lequel il fallait s'élever ou le cas parce que c'est le cas limite qui remet en cause la définition idéologique de la différence sexuelle, la définition normative, oppressive de la différence sexuelle. Donc il me semble que le combat des intersexes est un combat éminemment féministe, et il doit être en tout cas éminemment féministe et antiraciste, de la même façon que le féminisme aujourd'hui, pour moi, mon féminisme, en tout cas celui que je défends, est un féminisme qui est au cœur des luttes des intersexes.
Alors, c'est une des pierres d'achoppement de notre militantisme intersexe, c'est qu'on a d'un côté le peu d'intersexes qui ont conscience d'être intersexes et qui sont prêts à militer, très souvent le voient à l'aune de leur propre intersexualité et sont pour une reconnaissance juridique ou médicale, mais ne voient pas l'intérêt de ces convergences de lutte. Et c'est un mouvement qui est finalement très, très kaléidoscopique, hein, où d'un côté on a des pays comme les Pays-Bas qui refuse absolument toute convergence de lutte, notamment avec les transsexuels, où on a des personnes comme moi en France ou Edith Nagan en Belgique, pour lesquelles on est fondamentalement des féministes et on a des convergences de lutte avec les mouvements antiracistes ou avec les mouvements de classe. Et là, je ne sais pas si c'est une difficulté propre à notre époque, hein, où il y a peu de convergence de lutte, ou si c'est lié au fait que l'intersexualité soit tellement méconnue et touche tellement à l'intimité des gens que ça empêche cette intégration, notamment dans les luttes féministes.
Je pense qu'il y a eu, dans l'histoire du féminisme, parce que le combat a été dur et il est toujours très dur, mais on a mis du temps à intégrer la problématique de l'intersexualité. En tout cas, on a mis du temps à la reconnaître. C'est vrai qu'à partir du moment où on rentre dans un féminisme qui est celui de la déconstruction des identités sexuelles, donc de genre et de sexualité, la question de l'intersexualité est au cœur du combat parce que au fond, de la même façon que pour un certain nombre d'intellectuels et de militantes trans qui se revendiquent féministes aujourd'hui, c'est fondamental. L'idée selon laquelle mon corps m'appartient, et ben ce slogan qui est historiquement un slogan féministe a été dans la longue histoire que j'ai essayé de décrire une revendication et un mot d'ordre qui est celui de la convergence des luttes entre la réappropriation des femmes de leur propre corps, la réappropriation des intersexes de leur propre corps et la réappropriation des esclaves de leur propre corps.
Je voudrais que tu nous explicites un petit peu ce qui t'a amené à t'intéresser à l'intersexualité. Quelles sont tes motivations ?
Donc certainement pas l'université, par exemple. C'est certainement pas à l'université que j'ai entendu ça. C'est comment je suis arrivée à m'intéresser à l'intersexualité pour des questions politiques et épistémologiques, puisque théoriquement, moi, je me situe dans un courant de la théorie féministe qui est celui de la déconstruction et de la dénaturalisation des identités sexuelles. Et à partir de ce moment-là, j'ai entamé toute une recherche sur comment les identités sexuelles, hommes, femmes, mâles, femelles, féminins, masculins, ont été produites. Et quelle a été la fonction politique de cette production, c'est-à-dire quel type de rapport de pouvoir ça a mis en place. Et à partir du moment où on s'intéresse à la production de ces identités, dans une posture qui est celle que ces identités sont un construit social, hein, qui a une fonction politique, eh bien, de fait, on s'intéresse précisément à l'histoire du sexe, et on s'aperçoit que le sexe a une histoire, et que l'idée qu'il existe que deux sexes, et deux sexes seulement, vole en éclats au profit d'une autre conception de la sexuation des corps. Et donc j'ai rencontré à la fois la question d'intersexualité et j'ai rencontré en même temps la question du black féminisme, du féminisme africain-américain, puisque historiquement, les femmes noires n'ont pas été considérées comme de vraies femmes, même de façon biologique. Hein, c'est ce que j'ai montré avec l'esclavage. Et donc là, c'est un même discours, un même rapport savoir-pouvoir sur ces corps qui a été opérant à la fois pour les questions des hermaphrodites et à la fois pour les questions des esclaves. Et c'est mes deux corps préférés.
C'est joli. Alors, on voit depuis quelque temps un certain nombre de personnes qui s'emparent du discours intersexe, comme on a vu les années précédentes, des personnes s'emparer du discours transsexuel et puis auparavant des homosexualités, du féminisme, et des personnes qui sont extérieures à l'intersexualité. Bien que la définition de l'intersexualité soit quand même assez floue. Mais nous sommes dans la crainte de se faire, alors que notre discours émerge, de se faire confisquer un petit peu notre discours. Et je le vois notamment je suis assez critique sur ce qui a été écrit, notamment sur l'histoire de Barbin. Et un certain nombre d'entre nous, intersexes, on retravaille le manuscrit de Barbin parce qu'on considère que ça a été vu par des gens qui n'ont pas intégré toutes les thématiques de ce qu'est l'intersexualité, de ce qu'on peut vivre. Et être là, bon, même si on est souvent en rapport, etc., t'as pas peur d'institutionnaliser un petit peu le discours intersexe, d'en faire un discours universitaire, un petit peu comme ce que je considère sur le discours queer en France, qui a été très universitaire et qui ne vient pas de la base.
Rapidement, je voudrais répondre là-dessus parce que ça me semble important. En travaillant sur la question du racisme, de l'esclavage, de la théorie féministe, de la pensée queer, de la question de l'intersexualité, je porte une parole qui, pour moi, est une parole éminemment politique. C'est-à-dire que moi, je me situe en aucune façon comme une scientifique ou une universitaire objective, désincarnée, qui aurait une position de surplomb sur le débat politique lié à ces questions. C'est-à-dire en aucune façon. Et par conséquent, c'est peut-être aussi ma position de philosophe qui me permet d'avoir cette posture politique, c'est que voilà, mon discours est un discours situé dans ces luttes.
Merci Elsa. Je vous rappelle donc l'ouvrage d'Elsa Dorlin, qui est philosophe à Paris 1, La matrice de la race, généalogie sexuelle et coloniale de la nation française aux éditions La Découverte.
Días, no llores, sonría, que de 24 horas que tiene el día, 16 son pan que ría, ría, ría. Bien he contado los días, no llores, sonría, que de 24 horas que tiene el día, 16 son pan que ría, ría, ría. No te vas, no, aquí estás. Tu esencia que es mi herencia en cada trozo de compás. No espero más, ya todo dicho está. No camino sola, te tengo siempre detrás. No dejas de ser, no verte, no es perderte. Tengo un corazón que late y sabes que no miente. Que en lo profundo te siente hacerme fuerte. Al sol de tus consejos ha crecido tu simiente.